Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la sclérose en plaques de l'enfant. Et pour évoquer sa prise en charge, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Kumaran Deva. Professeur Deva, bonjour.
Bonjour.
Professeur Deva, vous êtes neuropédiatre, chef du service de neuropédiatrie à l'hôpital Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre. Vous coordonnez le centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle, le MIRCEM, membre de la filière Brain Team. Et vous avez également coordonné avec l'ensemble des rédacteurs le PNDS Sclérose en plaques de l'enfant, réalisé sous l'égide du MIRCEM et de Brain Team. Alors tout d'abord, professeur Deva, pouvez-vous nous rappeler succinctement quels sont les principaux symptômes des enfants touchés par une sclérose en plaques ?
Il y a plusieurs types de symptômes qui peuvent apparaître et en fonction de l'âge, ces symptômes peuvent varier. Si on prend les enfants de plus de 10 ans, généralement, c'est presque les mêmes symptômes que les adultes peuvent voir, en particulier des troubles, ce qu'on appelle en fait des voies longues avec des troubles de la sensibilité, l'impression d'avoir donc un membre lourd, des picotements, des fourmis, ou bien ça peut être aussi une atteinte du nerf optique avec une baisse de la vision. On peut voir aussi chez les enfants plus jeunes, ça c'est quelque chose d'assez particulier en pédiatrie, des tableaux un peu explosifs en fait de troubles de la conscience qui peuvent nécessiter une prise en charge en réanimation qu'on appelle en fait des tableaux d'ADEME. On a aussi des atteintes du tronc cérébral avec une paralysie faciale, des troubles de la déglutition, ainsi de suite, qui peuvent apparaître, qui sont aussi quelque chose qui se voit chez l'enfant. Et puis des tableaux d'atteinte des membres inférieurs, des paraplégies, des atteintes de la moelle, des myélites, sont aussi possibles, mais ça reste quand même rare chez l'enfant.
Et quels sont les enjeux de la prise en charge chez ces jeunes patients ?
D'une part, c'est surtout en fait la durée de la maladie, parce que quand on parle d'enfants et d'adolescents, on part à des âges très tôt. Et la maladie, c'est une maladie chronique qui va durer. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de traitements qui peuvent guérir de la maladie. Donc, il est extrêmement important de le diagnostiquer tôt et de commencer, dès qu'on a fait le diagnostic, de commencer donc une thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, on l'abordera probablement par la suite, c'est les conséquences que peut présenter cette maladie chez l'enfant. Alors, sur le côté moteur, contrairement à ce qu'on a beaucoup d'informations véhiculées, les enfants qui sont atteints de cette maladie présentent rarement des difficultés sur le plan moteur, c'est-à-dire que ce n'est pas des enfants qui vont avoir un handicap moteur, c'est des enfants qui sont complètement normaux et il est rare d'avoir en fait des enfants qui ont besoin d'une canne ou d'un fauteuil. Par contre, sur le côté cognitif, sur le côté en fait de l'apprentissage, il est nécessaire de les surveiller et de les prendre en charge. Donc, du coup, l'enjeu, c'est vraiment le temps. Le plus tôt on fait le diagnostic, mieux est pour les enfants. Et puis surtout, plus tôt on commence une thérapeutique, mieux c'est aussi au vu des disponibilités thérapeutiques que nous avons aujourd'hui.
Et qui est-ce qui prend en charge ces jeunes enfants ?
Ça touche les enfants de tout âge. Donc, quand les enfants sont adolescents, jeunes adultes plutôt qu'adolescents, c'est-à-dire 17-18 ans, ces enfants peuvent être suivis par des collègues neurologues adultes. Quand ils sont plus jeunes, et en particulier surtout quand ils ont moins de 15 ans, c'est des patients qui sont surtout suivis et qui ont besoin d'être suivis par des pédiatres et surtout des neuropédiatres, parce que la prise en charge a quelque chose de particulier sur le côté de la scolarité. Ensuite, les spécialistes qui ont donc une expertise. La sclérose en plaques, je reviens un tout petit peu sur la sclérose en plaques, de l'adulte, c'est une maladie qui est fréquente. Donc, les neurologues sont très bien formés pour la sclérose en plaques. Par contre, la sclérose en plaques de l'enfant est une maladie qui est rare. Et là, on a besoin donc d'avoir un suivi dans des centres experts. Donc, à l'heure actuelle, avec le MIRCEM, on a à la fois en fait des centres d'experts pédiatriques et aussi des centres experts adultes qui font partie aussi de ce qu'ils appellent des centres de compétences ou bien des centres experts de la sclérose en plaques.
Et justement, professeur Deva, quelle prise en charge recommandée et quelle est la différence avec celle des adultes souffrant de sclérose en plaques ?
La prise en charge qu'on recommande, c'est d'une part, une fois que le diagnostic est effectué, que les enfants soient adressés donc dans un centre expert qui les prenne en charge et la prise en charge va surtout se concentrer bien sûr sur le côté thérapeutique à l'heure actuelle grâce à plusieurs essais cliniques qui ont été réalisés chez les enfants et les adolescents. On a des possibilités thérapeutiques plus variées et en particulier avec des thérapeutiques de haute efficacité qui sont actuellement disponibles chez les enfants. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième étape, deuxième élément important, c'est la prise en charge de ce qu'on appelle l'accompagnement de ces enfants et de ces adolescents. Ce sont donc des maladies qui sont très inflammatoires, avec un tableau qui peuvent être explosif, surtout quand ils sont jeunes. L'IRM peut être très inflammatoire avec beaucoup de lésions à l'imagerie. Et puis surtout, ils font beaucoup plus de poussées par rapport aux adultes, surtout pendant les deux premières années.
Et dans ce contexte, quel accompagnement proposer à ces jeunes enfants au-delà de la prise en charge thérapeutique en elle-même ?
Quand on parle d'enfants et d'adolescents qui sont dans une étape de leur vie, et en particulier chez les adolescents, assez important, puisqu'il y a donc cette autonomie, cette indépendance qui se met tout doucement en place. Donc, lorsqu'on commence à parler en fait d'une pathologie chronique dans cette étape de leur vie, ça complexifie beaucoup de choses. Je vous ai dit aussi que les enfants sont très peu atteints sur le plan moteur, c'est des enfants qui sont souvent très valides, mais sur le côté cognitif, on appelle donc de côté des apprentissages, ils vont avoir donc des impacts de liés à la maladie, c'est-à-dire la fatigabilité qui touche presque 40% de ces enfants-là. Et puis, un autre élément qu'on appelle en fait des signes invisibles de maladie, l'anxiodépression, ça touche presque un tiers des enfants qui ont une schizophrénie. Cette partie-là, en plus de la maladie qui va nécessiter des hospitalisations, va avoir donc un impact sur l'apprentissage et en particulier sur la scolarité. D'où l'importance de les accompagner sur la partie scolaire avec la mise en place d'aides qui sont donc spécifiques, avec comme par exemple quelque chose qui pourrait les aider pendant les examens, qui est le tiers-temps supplémentaire. En plus de cela, il y a une prise en charge avec un psychologue ou une psychologue va être extrêmement important. Quand on parle en fait d'un accompagnement avec une psychologue, les adolescents n'aiment pas trop parce qu'ils me répondent tout de suite comme quoi c'est je ne suis pas fou, donc j'ai pas besoin de psychologue. Et ce n'est pas parce qu'on est fou qu'on voit une psychologue. C'est simplement une psychologue peut les aider à juguler cette anxio-dépression qui est souvent prégnante dans leur vie quand ils ont une scoliose en plaques.
Et pour conclure, professeur Deva, quel est le suivi qui est proposé à ces jeunes enfants ?
Ce qu'on propose actuellement, c'est un suivi au long cours, bien sûr sur le côté médical, avec la mise en place du traitement, un suivi imagerie pour le suivi des lésions, et puis aussi bien sûr un suivi d'accompagnement en fait sur le plan scolaire et aussi psychologique. Et une fois que ces enfants et ces adolescents deviennent donc presque adultes, ils touchent donc l'âge de la majorité, on prépare aussi le relais auprès de nos collègues adultes par une consultation de transition.
Eh bien, merci infiniment, professeur Deva, de nous avoir fait mieux connaître la prise en charge de la sclérose en plaques chez l'enfant. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.